Bonjour, ce n'est pas de mon portrait qu'il s'agit, mais plutôt du portrait de la République démocratique du Congo à travers son volet humanitaire, économique et social aujourd'hui. Bonjour donc, bienvenue à ce magazine Okapi Action. Il y a des combats encore dans le Nord Kivu. Plus de 36 000 personnes se sont déplacées des Kanyabayonga et les cités environnantes. Les acteurs humanitaires ne savent pas atteindre ces sinistrés parce qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a pas de couloir humanitaire. Que peuvent faire les acteurs humanitaires? On en parlera tout à l'heure. Et puis, près de 12 000 anciens combattants sont candidats à la démobilisation. Avant d'être reversés dans la vie sociale, ils doivent passer par un centre de transit d'orientation. Ça sera une chose faite, peut-être d'ici 2 mois. En tout cas, on aura des précisions avec les représentants de la CONADER au niveau du Kindoumanima. Il faut payer les taxes, oui, c'est un devoir civique. Beaucoup de Congolais veulent bien le faire, mais hésitent à le faire parce qu'ils ne voient pas ce à quoi sont destinées toutes ces taxes. Comment faire en sorte que les uns et les autres puissent payer les taxes et que les fruits et des ressources fiscales soient visibles sur le terrain? Ça constituera notre dernier sujet du magazine Okapi Action aujourd'hui. Vos réactions nous intéressent, faites-les nous parvenir en appelant au 081 890 68 90. Si vous nous appelez de la République démocratique du Congo, faites les 00243 81 890. Si vous nous appelez de l'extérieur de la République démocratique du Congo. Si maintenant vous nous suivez en direct sur Internet, à partir de chez vous, de votre bureau ou d'un cybercafé, envoyez un message sur action@radiokapi.net et ensemble, agissons.
Okapi. Okapi à Kinshasa sur 103.5 FM.
Voilà, le week-end dernier, on a signalé des combats autour de la localité de Kaina, à 15 km de Kanyabayonga. Pour revenir à Kanyabayonga, tous les 25 000 habitants de la ville ont quitté la cité. Avec la poursuite des hostilités, les populations des cités voisines se sont massivement, elles aussi, déplacées. Ces populations fuient les combats. Les acteurs humanitaires ne peuvent pas assister les sinistrés. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Il n'y a pas de couloir humanitaire. Les conventions internationales ne sont pas respectées. Quels recours peuvent-ils être utilisés? Qu'est-ce que les acteurs humanitaires peuvent faire en vue d'obtenir ce couloir humanitaire? Vos réactions nous intéressent. Faites-les nous parvenir déjà. On en discutera aussi avec des invités, au moins 3, pendant cette tranche de la première heure. Mais on fait d'abord un premier tour d'horizon avec Nicole Ngaka. Nicole, bonjour.
Bonjour Alter.
Alors les combats se sont poursuivis encore ce week-end autour du Kanyabayonga. Cette situation bloque les interventions humanitaires. C'est des ONG locales et internationales qui peuvent intervenir sur place au Nord Kivu.
Oui, vraiment c'est difficile pour ces ONG d'intervenir. Walter, hier matin du reste, on parlait de la reprise des combats entre les troupes gouvernementales et les insurgés à Kaina, qui est situé à 15 km de Kanyabayonga, et Nabiondo, qui est vidé de son monde bien avant.
Alors comment les ONG et autres acteurs humanitaires sur place font-ils pour ne fût-ce que intervenir, Nicole? Est-ce que vous pensez que ces acteurs, ces volontaires de l'humanitaire peuvent intervenir?
Très bonne question. Alter. Normalement, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu pour qu'ils puissent intervenir directement parce que, mine de rien, ces ONG elles-mêmes aussi sont exposées. Mais en attendant la déclaration officielle d'un cessez-le-feu, certaines ONG locales, comme l'ONG Cadre, qui s'appelle en fait Comité d'appui au développement rural endogène, a décidé d'appuyer la population rurale du Nord Kivu, malgré la sécurité, apprenons-nous de Moïse Mutunga, notre collègue sur place à Goma. Mais il faut préciser aussi, Walter, que cette ONG lutte contre la pauvreté de la population et qu'elle œuvre aussi dans le domaine de l'agriculture et de l'éducation.
Avec le projet de l'agriculture et de l'élevage des lapins que nous avons mis en place en Zulu et à Bulengo, certaines familles ont pu supporter le coût scolaire avec la vente de ces produits, de ces petits élevages. Toute la période que nous avons œuvré, donc 10 ans durant, il y avait toujours l'insécurité et nous avons travaillé. Et donc nous allons toujours continuer malgré, on va chercher les points où l'insécurité est moins grave pour y œuvrer.
Voilà le président du conseil d'administration du comité d'appui au développement rural endogène. Pour rappel, disons que le vendredi passé, au cours d'un entretien que nous avons eu avec notre confrère Jules Galawamona, il était à Rwindi, au sud de Kanyabayonga, et nous avait précisé que la plupart des malades étaient obligés de quitter les hôpitaux aussi, même que des médecins avaient fui les combats. Je vais vous proposer de réécouter un extrait de cet entretien que nous avions vendredi dernier avec Julien Galawamona.
Ces mêmes populations nous ont déclaré que là où ils vivent, là où les habitants de Kanyabayonga qui avaient fui et qui ne s'étaient pas éloignés trop de la cité, eh bien, ils ont commencé à voir leurs malades mourir, parce que pour quelques-uns, parce qu'il y en a un qui nous a déclaré que son papa qui était malade est mort malheureusement parce qu'il n'y avait plus de soins. Nous avons trouvé un agent de la Croix-Rouge de Kanyabayonga qui a déclaré que à l'hôpital, nous sommes allés même à l'hôpital avec la section humanitaire de la MONUC, nous sommes allés à l'hôpital où nous avons trouvé qu'il n'y avait même pas un médecin, il n'y avait même pas un infirmier, et même les malades eux-mêmes avaient quitté la cité, avaient quitté l'hôpital. Nous avons trouvé deux malades qui étaient restés. Il y avait une opérée, une femme opérée, et il y avait un papa diabétique qui ne pouvait pas se déplacer. Donc vous voyez, c'est une situation tout à fait vraiment préoccupante, dans la mesure où il n'y a personne pour prendre en charge les malades. Les malades eux-mêmes ont fui, ils sont allés dans le lieu de refuge où il n'y a personne pour les prendre en charge.
Jules Galawamona, extrait d'un entretien que nous avons eu avec lui vendredi dernier. La situation n'a pas changé. Elle s'est empirée par ailleurs avec la reprise des affrontements hier. Alors, après ce rappel, donc, sur le volet plutôt humanitaire de conséquences de ces affrontements qui se déroulent autour de Kanyabayonga, qui a atteint les malades, les services médicaux. Alors là, on se demande, Nicole, comment les acteurs humanitaires, ces volontaires, des bonnes œuvres, s'organisent pour assister justement toutes ces personnes démunies, sinistrées et malades.
Il faut vous dire tout de suite, Walter, que les humanitaires rencontrent beaucoup, beaucoup de difficultés pour assister toutes ces personnes qui ont dû fuir les combats. Nous avons abordé cette question avec Rachel Scott, qui est en charge de l'humanitaire à Otchagouma.
Pour l'instant, il y a le manque d'accès à cause non seulement du problème de mettre la raison, mais aussi l'insécurité qui règne autour de Kanyabayonga et plus loin. Et ça veut dire que les humanitaires se sentent pas suffisamment en sécurité d'aller sur le terrain et faire le travail.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les humanitaires puissent assister justement toutes ces personnes?
D'abord, je pense que ces conditions de sécurité doivent se mettre en place. Et ça veut dire que les militaires qui sont dans la zone doivent respecter les principes humanitaires, c'est-à-dire qui doit donner les assurances que les humanitaires ne vont pas être ciblés. Et non seulement les humanitaires, mais aussi la population qu'on cherche à assister. Pour l'instant, il y aura eu plusieurs incidents contre les humanitaires, des voitures qui ont été réquisitionnées, et également des humanitaires qui ont été menacés dans la région. Et ça fait pendant la semaine passée. Donc, OCHA a écrit une lettre aux autorités militaires pour déplorer ces actes et pour demander que la situation change dans l'avenir et pour dire que c'est impossible pour les humanitaires d'aller sur le terrain. Ce type d'exactions peut continuer à se produire.
Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ces déplacés n'ont pas d'assistance humanitaire?
Pour l'instant, ils ont très peu d'assistants. Donc, vous savez, ils sont dans la forêt. Donc, déjà, l'accès au niveau logistique et pratique, c'est très difficile. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de trouver un espace neutre pour que ces gens puissent accéder à des zones neutres pour avoir des soins de santé de la nourriture, des choses comme les couvre-tout, les jerrycans, des savons, des choses comme ça, et puis les latrines et de l'eau propre.
Et voilà, Rachel Scott, international du Bureau de coordination des actions humanitaires, peut dire que à ce sujet, le Bureau de OCHA, la République démocratique du Congo, a rendu public le 16 décembre un communiqué qui est titré « Arrêter la guerre contre les civils ». Je peux lire en substance quelques extraits pour dire que les conflits, OCHA dit que les conflits ne sont pas des périodes de non-droit, plus que jamais dans ces situation troublée, les règles universelles relatives à la protection des civils et le respect des principes humanitaires doivent trouver pleine application. Derrière ces textes, si souvent bafoués, transparaissent aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo des visages d'enfants, des femmes, des personnes âgées et d'hommes, des innocents pris en otage d'une guerre qui ne leur appartient pas. À leur côté, des humanitaires désireux d'alléger les souffrances des victimes les plus vulnérables subissent les conséquences des violations des principes élémentaires gouvernant leurs actions. Vous avez entendu tout à l'heure Rachel Scott évoquer notamment des réquisitions du matériel roulant des humanitaires cités notamment dans les zones de Ndiapanda, proche de Mangrojipa, Keina, Kirumba et Butembo. C'était dans le but de transporter des troupes et des munitions. Ça ne peut pas se faire. Et voilà ce qu'a souligné tout à l'heure Rachel Scott. Nicole, merci beaucoup pour avoir fait avec nous ce premier tour d'horizon. On va le poursuivre avec notre invité tout à l'heure. Merci beaucoup.
Merci à vous, Walter.
Les auditeurs peuvent rappeler au 081-890-68-90.
Okapi à Kinshasa sur 103.5 FM.
Ok, puis action, nous recevons notre premier invité pour le premier sujet d'aujourd'hui, le sujet sur la situation humanitaire qui prévaut au Nord Kivu principalement autour de la zone de Kanyabayonga. Pour commenter ça, c'est d'abord un premier avec Maître Dominique Kamandou. Maître, bonjour.
Bonjour Walter.
Bon alors, quels commentaires juridiques faites-vous lorsque, par exemple, on ne sait pas respecter les droits humanitaires, lorsque des agences humanitaires ne peuvent pas accéder à des populations déplacées, estimées à plus de 36 000 personnes.
Merci beaucoup, Walter. D'entrée de jeu, je vais préciser d'abord que la situation des guerres et des conflits armés, d'une part, est une situation de la négation du droit et des règles. Généralement, on assiste à plusieurs violations des droits des personnes en situation de conflit, particulièrement en cas de conflit armé, comme les cas que nous sommes en train de déplorer à l'est de notre pays, et que nous devons savoir que tant sur le plan interne que sur le plan international, il y a des règles qui régissent même les situations exceptionnelles comme les situations de guerre. C'est le cas du droit international humanitaire qui régit la manière dont les combattants et même les groupes armés doivent se comporter pendant les conflits et pendant les hostilités. Il y a des objectifs qu'ils ne peuvent pas atteindre. Il y a des endroits où ils ne peuvent pas diriger leurs opérations militaires. Donc, cela est régi pour protéger la vie humaine, pour protéger la dignité et la nature de la vie des personnes et pour protéger les personnes qui viennent au secours des populations en détresse. Donc, il y a des normes prévues par le droit international humanitaire pour régler ce genre de situations. Et les personnes qui sont en train d'aller à l'encontre de ces règles, bien sûr qu'en faisant la guerre, ils sont inciviques, mais il n'y a personne qui est au-dessus de la loi, il n'y a personne qui est au-dessus des normes qui régissent la société. Donc tous, même les combattants, sont obligés et sont tenus de respecter ces règles.
Mais il y a eu des menaces contre des acteurs humanitaires, il y a eu des véhicules utilisés pour des opérations humanitaires qui ont été réquisitionnés dans la même zone. Tout ça, c'est terrible parce qu'il y a au moins 36 000 personnes qui doivent obtenir cette aide. Il y a d'ailleurs MSF qui a évacué son personnel de Kaina, qui était la première ville qui a reçu les gens. Et puis avec les combats qu'il y a eu hier là-bas, beaucoup de personnes se sont déplacées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un mécanisme de poursuite des combattants qui attaquent des sites civils ou qui attaquent des humanitaires?
En principe, la loi prévoit, les textes prévoient toutes ces situations parce que s'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas de contraintes, la loi perd un peu quelque part sa force et sa puissance. Dans le cas d'espèce, il y a des cas qui sont régis par les instruments juridiques internationaux et même par notre législation interne. C'est dans des pareilles circonstances que l'on parle des crimes de guerre, c'est-à-dire toutes les mesures, tous les actes qui ont été posés, qui ne vont pas dans le sens des objectifs militaires, qui ne sont pas nécessairement exigés pour la bonne fin des opérations et qui sont tournés vers les objectifs civils, vers les populations civiles. Donc ces différents actes constituent des crimes de guerre et sont poursuivables devant la Cour pénale internationale.
Par quel mécanisme, Maître Dominique?
En principe, la Cour pénale internationale peut être saisie de plusieurs manières. Les États, par exemple, qui sont victimes sur leur territoire des pareilles situations, des organisations humanitaires, peuvent porter à la connaissance de la Cour pénale internationale ces différentes situations, quitte au procureur près la Cour pénale internationale d'étudier les dossiers et d'initier des poursuites à l'endroit des personnes qui sont suspectés d'avoir posé ces actes.
Qui a qualité pour saisir la Cour pénale internationale?
Effectivement, la Cour pénale internationale peut se saisir d'office, mais toute organisation, un État peut porter à l'intention de la Cour pénale internationale l'information nécessaire pour lui permettre de pouvoir prendre la décision de diligenter les poursuites dans un sens ou à charge de tel groupe ou de tel autre État.
Mais voyez-vous, Maître Dominique, des auditeurs, ils sont par milliers qui nous écoutent maintenant et parfois s'énervent lorsqu'ils attendent que bon voilà, il faut saisir telle juridiction, il faut saisir, mais ils se disent mais c'est tellement long, c'est tellement lent, ça traîne tellement qu'on a l'impression que le droit n'existe presque pas.
Effectivement, nous devons aussi savoir que le droit est là pour nous protéger. Et que surtout, la procédure, c'est-à-dire les règles des formes, sont prévues pour essayer de contourner et d'éviter l'arbitraire et l'anarchie. Parce que quand on fait des histoires dans la précipitation de n'importe quelle manière, il y a beaucoup plus de risques que plusieurs erreurs puissent se glisser. C'est ainsi que sur le plan juridique, on prévoit les formes selon lesquelles certaines actions, certaines poursuites peuvent être menées. Tout cela sont des garanties aussi bien pour la protection des personnes qui sont victimes et même celles qui sont poursuivies, parce qu'on ne peut pas poursuivre une personne de n'importe quelle manière. On doit mûrir les dossiers, on doit avoir suffisamment d'éléments et même quand on va se pencher sur les fonds, on doit examiner la situation minutieusement, parce que le fait de porter une accusation contre une personne, contre un groupe, ne dit pas nécessairement que cette personne est déjà coupable. Donc, jusqu'à la fin de la procédure, la personne jouit de la présomption d'innocence. Donc, toutes ces formes sont prévues pour donner suffisamment des garanties d'impartialité et du bon déroulement des poursuites.
Mais pour revenir à, si vous voulez, à l'esprit des conventions internationales, leur applicabilité pose souvent problème du fait de son caractère. Enfin, certains doctrinaires disent que les droits, les lois internationales, c'est un soft law, si c'est pas une loi contraignante, c'est plutôt des recommandations, nous recommandons ceci, nous recommandons cela. Il y a des dénonciations, les gens disent, mais oui, dénoncer, ça ne suffit pas. Il faut intervenir, il faut rétablir l'ordre. Et ça fait une espèce de sentiment d'abandon chez les populations sinistrées.
Effectivement, ces situations sont dictées par le principe fondamental du droit international, qui est la souveraineté des États, qui veut qu'on ne puisse pas contraindre un État devant certaines situations, qu'on ne puisse pas amener un État à faire des choses par contrainte et tout ça. Donc, c'est le principe de la souveraineté de l'État. Mais dans certaines matières, les choses commencent à évoluer. C'est le cas dont on a parlé tout à l'heure, des crimes de guerre. Donc, il y a possibilité, lorsque les auteurs de certains faits, qui sont constitutifs des crimes de guerre sont identifiés, il y a lieu que la Cour pénale internationale puisse les poursuivre. Et il y a même des cas où on a eu dans l'histoire des tribunaux pénaux qui ont été mis sur pied, des tribunaux ad hoc pour des situations particulières. Tu vois que dans ces cas-là, il y a des personnes qui ont été poursuivies et condamnées par ces juridictions. Effectivement, ça prend du temps, mais les temps et les formes prescrites sont plus prévus pour garantir l'impartialité et garantir le bon déroulement du processus pour éviter l'arbitraire et l'anarchie.
Nous allons recevoir par téléphone un autre invité. C'est un humanitaire de l'ONG Médecins Sans Frontières France qui va répondre à certaines questions parce qu'ils ont vu notamment la situation qui prévaut par là, Kaina notamment, qui est assez difficile. Ils ne peuvent pas intervenir, ils ne peuvent pas aller sur terrain, mais il y a toujours cette volonté de chercher à reprendre le contact vers les populations sinistrées. Mais Maître Dominique, lorsque des ONG sont empêchées ou leurs biens sont réquisitionnés, repris, pillés par des combattants, qu'est-ce qui peut être fait?
Dans ces cas-là, ça, ce sont vraiment des situations exceptionnelles et vraiment des situations d'anarchie. Les ONG, comme pour l'instant, les combattants, les ONG doivent se plaindre ou par exemple s'adresser aux organes, par exemple pour les cas précis, peuvent s'adresser aux organes compétents au niveau du gouvernement pour que dans certaines zones, on puisse les protéger par des éléments armés et ne pas toucher à leurs biens parce que ces biens sont destinés à l'action humanitaire, sont destinés à l'assistance de la population. Parce qu'on trouve des cas où des forces régulières réquisitionnent les matériels,
oui,
les matériels des ONG.
Moi,
je pense que dans les cas d'espèce, ils doivent s'adresser aux autorités compétentes qui doivent prendre des dispositions pour que ces matériels soient mis à l'abri et puissent servir nécessairement à l'assistance à la population qui est en détresse.
Dès lors qu'il est connu, par exemple, qu'avant qu'une ONG internationale puisse s'implanter en République démocratique du Congo, elle signe avec le gouvernement un document qu'on appelle accord de siège. C'est dans ce document que entre le gouvernement congolais et les ONG qui interviennent, il y a des prescriptions qui expliquent notamment la sécurité des organes du gouvernement et puis que les ONG qui viennent puissent appliquer, mener correctement la mission pour laquelle elles sont venues. Et est-ce qu'on peut s'inspirer de cet accord de siège pour notamment demander que le gouvernement puisse faire pression sur ces éléments, s'il s'avère qu'ils sont ces éléments, en vue de remettre aux ONG leur matériel?
Effectivement, la plupart d'ONG internationales qui s'implantent ici signent avec le gouvernement des accords. Bon, généralement, on parle d'accords cadres qui sont signés et ces accords donnent de part et d'autre les droits et obligations de chaque partie. Et en ce qui concerne le gouvernement, dans pareille situation, le gouvernement a l'obligation de garantir la sécurité et l'encadrement des personnes et des structures qui œuvrent dans ces cas. On peut effectivement saisir les autorités compétentes et faire recours à ces accords pour que le gouvernement joue vraiment son rôle et veille et donne des instructions particulières à ses troupes afin de sécuriser ces personnes et de veiller à leur encadrement et au matériel qui est mis à leur disposition pour l'assistance de la population. Effectivement, ces accords sont un cadre juridique important et nécessaire sur lesquels sont fondés plusieurs interventions, si pas toutes, et qui doivent être prises en considération par le gouvernement en ce qui concerne ses obligations de veiller à l'encadrement et à la sécurité de ces organisations et de leurs agents.
Rappelons aux auditeurs que nous parlons d'une situation assez particulièrement déplorable, la situation humanitaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, des visages d'enfants, des femmes, des personnes âgées, d'hommes, des innocents pris en otage dans une guerre qui ne leur appartient pas. À leur côté, des humanitaires désireux d'alléger les souffrances des victimes les plus vulnérables subissent les conséquences des violations des principes élémentaires qui gouvernent leurs actions. On va se retrouver dans quelques instants.
Okapi. Un seul pays, une seule radio. Okapi.
Thierry, bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc vous travaillez pour Médecins Sans Frontières France. Votre organisation a évacué Kaina. On a reçu l'information selon laquelle vous tentez de reprendre votre assistance aux déplacés de Kanyabayonga. Comment ça se passe actuellement à votre niveau?
Bah, en fait, comme je vous le disais, nous avons dû quitter Kaina mercredi dernier. On avait une partie des équipes congolaises expatriées qui avaient quitté. On avait une partie de l'équipe congolaise qui était encore sur place. Donc ils avaient pu reprendre avant-hier des activités. On commençait à revoir des enfants malnutris venant chez nous, des malades. Aujourd'hui, avec la reprise des combats, on n'a plus eu de contact avec notre équipe. Donc on ne sait pas exactement ce qui se passe dans Kaina. Notre problème aujourd'hui, c'est de savoir où sont les gens et de savoir comment on va pouvoir les assister. Là, on parle de la population de Kanyabayonga, mais aussi de la population de Kaina, Kirumba, des gens qui ont dû se déplacer. Aujourd'hui, on ne sait pas où sont les gens, dans quel état ils sont, et c'est notre plus grosse inquiétude.
Mais nous avons appris que l'équipe des MSF et d'autres agences humanitaires, vous avez été soumis à plusieurs reprises à la réquisition de certains de vos véhicules par les militaires, ce qui diminue très sensiblement votre capacité d'intervention. Est-ce que vous avez essayé de faire des démarches en vue de reprendre votre matériel roulant, ce qui vous permettrait de réorganiser vos opérations humanitaires?
Alors, tous les véhicules sont de nouveau chez nous, donc les négociations qu'on a menées ont abouti et tous les véhicules sont de nouveau chez nous. Le problème aujourd'hui, c'est de voir un petit peu quelle est la possibilité de reprendre, parce qu'il nous faut il nous faut pouvoir nous déplacer et de reprendre une activité normale et avant tout de pouvoir savoir où les gens qui ont quitté leur lieu de vie vont se positionner et comment on peut aller les voir et apprendre des activités médicales auprès de cette population.
Quels sont les domaines d'intervention en ce qui vous concerne, vous, Médecins Sans Frontières France, qui est au niveau, je suppose, de Boutembo vers Kaina? Vous intervenez dans quel domaine?
Auparavant, on avait un programme de prise en charge nutritionnelle, de prise en charge aussi des femmes violées. Après le début des combats, on avait commencé à ouvrir des cliniques pour les personnes déplacées et commencé à approvisionner un petit peu les sites de déplacés, que ce soit en produits alimentaires, que ce soit en eau. Aujourd'hui, on va voir selon la situation, il faudra évaluer de quoi la population a vraiment besoin, où c'est qu'elle se situe, est-ce qu'elle va être regroupée, est-ce qu'elle va être diffuse dans les collines. Donc tout ça reste à l'ordre de l'évaluation, de savoir où sont les gens et quels vont être leurs besoins. Leurs besoins, on peut déjà les imaginer. C'est pour les déplacés qui étaient sur Kaina, de Kayabayonga, vous voyez bien le manque d'eau potable, manque d'alimentation et un manque d'accès aux soins corrects.
Monsieur Thierry Alafort, le communiqué de l'MSF du 17 décembre, notamment, demande le respect par les différents groupes armés d'un espace de travail neutre qui, comme condition absolument nécessaire pour la mise en place des programmes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des discussions dans ce sens-là pour notamment vous obtenir un couloir humanitaire, un espace assez tranquille pour vous permettre d'assister les déplacés?
C'est clair qu'on discute avec les autorités congolaises de la possibilité de reprendre nos activités avec un minimum de sécurité.
Est-ce qu'il y a eu quelques premières réponses par rapport à cette demande?
En tous les cas, on a récupéré nos véhicules et là on est en train de voir un petit peu comment est la situation. Le problème, c'est surtout de savoir où vont être les déplacés, parce que c'est là où on aura besoin d'aller pour assister ces populations. Et aujourd'hui, on ne sait pas bien, c'est plutôt des portes ouvertes à chaque accalmie sur 24 heures, mais ça ne permet pas de démarrer des opérations correctes. Donc il faut voir un petit peu ce qui va se passer les jours qui viennent.
Oui, Alfred, il est 9h38 ce 20 décembre. Jusque maintenant, vous n'avez pas encore des bribes d'informations sur peut-être un positionnement de personnes déplacées quelque part autour de Kaina, non?
Non. On n'a plus de contact avec notre équipe à Kaina et donc on n'a pas d'idée exactement d'où sont les populations de Kayabayonga, de Kaina, de Kirumba, est-ce qu'ils sont revenus chez eux, est-ce qu'ils sont dans les alentours, s'il y a des regroupements importants, ça on n'a pas d'informations précises.
Voilà, je rappelle aux auditeurs que nous nous entretenions avec M. Thierry Alafort de Médecins Sans Frontières France. Jusque maintenant, depuis la reprise des hostilités hier autour de Kaina, MSF n'a pas encore localisé ses équipes, ni même la destination des personnes déplacées. On va évidemment continuer à suivre. M. Thierry Alafort, nous vous remercions sincèrement, vraiment, de nous avoir fourni toutes ces informations. Bon courage et surtout faites très attention à vous, Thierry.
Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
Merci, au revoir.
Okapi, c'est vous.
Voilà la situation humanitaire préoccupante dans le Nord Kivu. Vous venez d'entendre cet entretien avec Thierry Alafort de Médecins Sans Frontières France. Ils n'ont pas encore des nouvelles de leurs correspondants qui sont à Kaina, ce qui évidemment complique l'équation, la planification des interventions humanitaires. Nous sommes en train d'essayer de rejoindre d'autres agences humanitaires pour savoir recouper les informations, qu'est-ce qui est en train d'être fait à ce niveau pour améliorer les situations. Maître Dominique, vous avez entendu avec nous Thierry Alafort, un commentaire d'un homme de droit.
Effectivement, au regard de la Convention de Genève sur la protection des populations civiles en temps de conflits armés, ce qu'on peut préciser à ce moment, c'est qu'il faudrait que le gouvernement et d'autres partenaires internationaux, notamment la communauté internationale et certaines organisations du système, se mettent à pied d'œuvre pour déterminer un couloir humanitaire et délimiter la zone des conflits afin que les populations civiles puissent être dirigées vers des sites où ils peuvent être bien protégés, où les garanties de sécurité peuvent être mises en œuvre pour leur sécurité et où ils peuvent avoir de l'assistance humanitaire sur les soins de santé, l'accès à l'eau potable. Moi, je pense que pour le moment, en attendant de pouvoir arriver au cessez-le-feu et pouvoir mettre sur pied des mécanismes pour pouvoir endiguer ces conflits et mettre fin à cette situation, cela est une urgence pour le moment. On doit déterminer la zone de conflit et préciser un couloir humanitaire pour pouvoir protéger les populations civile.
Il y a beaucoup d'ONG congolaises qui ne s'organisent pas par rapport à ça. Elles peuvent faire un lobbying, comme c'est un terme consacré dans le mouvement associatif. Pourquoi elles ne font pas de lobbying par rapport à cette demande-là précise? C'est une demande pressante. Vous imaginez plus de 36 000 personnes dans la nature, et dans une partie du parc national de Virunga, dans les intempéries, et il pleut à tout moment. C'est quand même curieux que des ONG ne puissent pas faire cette action-là, non?
Effectivement, bon, je ne sais pas dire si ils sont en train de ne rien faire ou elles ont déjà commencé à faire quelque chose. Parce que je n'ai pas d'informations précises quant à ce. Mais ce qu'on est en train de faire ici peut être pour eux aussi une interpellation de pouvoir se mettre ensemble et de pouvoir mener des actions concrètes pour arriver à obtenir des mesures visant à sécuriser les populations.
En tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que c'est possible qu'on vienne avoir un autre acteur humanitaire par rapport à cette question. Et il faut reprendre que les ONG locales, nationales, doivent, ont l'obligation d'appuyer les ONG internationales par rapport à ce travail de lobbying de tous les sens. Ça peut faire peser la balance favorablement pour un couloir humanitaire, parce que ça, c'est ce qui est plus important. Identifie surtout où se trouvent les déplacés. Thierry Alafort nous l'a dit, ils ne savent même pas où sont situés les déplacés autour de Kaina. Et ça, c'est très compliqué à faire.
Effectivement, parce que quand la population civile est comme ça en fuite, en dispersion, sans être dirigée vers des sites bien précis, il y a trop de risques qui soient exposés aux balles qui sont en train d'être tirées dans tous les sens par les combattants. Et dans ce cas-là, on se retrouve généralement avec un bilan très lourd en perte de vies humaines.
Voilà, c'est ce qu'on va. On va chercher à savoir ça tout à l'heure, le temps que nous ayons des précisions sur la qualité et les fonctions de notre prochain invité qui est en ligne maintenant, qui nous écoute d'un coin de la République démocratique du Congo. Oui, Nicole Ngaka, vous pouvez. Merci beaucoup. Alors, il s'appelle Patrick Lavandome. Il est chef de bureau de Haut-Tcha pour le Nord Kivu. Monsieur Patrick Lavandome, bonjour.
Oui, bonjour.
Ben, voilà, nous voudrions savoir comme première question, qu'est-ce qui est fait en urgence maintenant par rapport à la situation humanitaire préoccupante autour de Kanyabayonga?
Donc, pour l'instant, l'ensemble des humanitaires ont quitté la région de Kanyabayonga et plusieurs agences se sont prépositionnées au niveau de Lubero. Il y a eu plusieurs missions d'évaluation et des tentatives de descendre vers le sud avec des missions qui ont pu atteindre Kasege. Les constatations à ce niveau-là changent de jour en jour, mais dans l'ensemble, pratiquement toute la population semble avoir quitté les villages tels que Alibongo, Kasegete, Kaina et Kirumba.
Et ces populations auraient quitté ces villages pour se diriger où ça? Est-ce que vous avez une idée là-dessus?
Alors on a un problème pour pouvoir arriver à suivre ces populations. Il semble qu'en fait elles n'ont pas pris l'axe principal qui monte vers Lubero, parce que une des raisons pour lesquelles elles ont quitté, ce serait des exactions qui auraient été faites par les militaires présents sur cet axe. Et donc, par peur de rencontrer encore ces militaires sur cet axe, ils ont pris plutôt les directions vers l'est, c'est-à-dire vers le lac Édouard, et se cachent dans la brousse.
Monsieur Patrick Lavandam, vous nous avez dit tout à l'heure que un certain nombre d'agences sont prépositionnées à partir de Lubero. Au regard des dernières informations que vous venez de nous fournir, est-ce que vous allez peut-être vous orienter vers Vichumbi de ce côté-là?
Alors écoutez, l'axe d'accès sur Vichumbi se fait normalement à partir de Rutshuru. Il y a un problème également d'accès pour les humanitaires au niveau de la sécurité pour pouvoir rejoindre Vichumbi et même Kanyabayonga. Donc la situation est la même là pour pouvoir faire une première évaluation. Je voudrais insister sur le fait que il y a deux préconditions que les humanitaires ont besoin pour pouvoir commencer une assistance humanitaire. La première, c'est évidemment d'avoir toutes les conditions sécuritaires pour leurs propres équipes, pour qu'elles puissent se déplacer librement sur le terrain et ne pas être harcelées par les différentes forces en action. La deuxième condition, c'est que les populations qui elles-mêmes fuient les tracasseries doivent pouvoir être sécurisées par les FRDC et que toutes les conditions sécuritaires doivent être remplies pour pouvoir commencer, par exemple, des distributions. Parce que sinon, on risque de se retrouver dans une situation où des humanitaires commenceraient des distributions et en fait rendraient ces populations encore plus vulnérables aux tracasseries.
Monsieur Patrick Lavandam, le maître mot de ces deux conditions, c'est la sécurité, l'accès facile aux populations, la libre circulation des humanitaires vers les zones de rassemblement des populations. Est-ce que il y a peut-être des discussions en cours par rapport à l'optation d'un cessez-le-feu ou alors peut-être avant d'abord pour un couloir humanitaire?
Oui, alors écoutez, au niveau des discussions qui sont faites à partir de Kinshasa, il y a deux choses. Il y a une éventuelle intervention de la part de la MONUC, mais ça c'est quelque chose qui revient de leur mandat, mais également de voir au niveau de leurs ressources s'ils ont la possibilité, vu l'étendue de la zone dont on parle. La deuxième chose, c'est également de remettre la grosse part de responsabilité pour la sécurité des populations sur les autorités congolaises.
Voilà, Monsieur Patrick Lavandam, il y a un auditeur qui nous a appelé. Je vais vous soumettre sa question et je vous demanderai de répondre. On va écouter la question d'un auditeur.
Je m'appelle Piero Kamoy, je suis à Lubumbashi. Je voudrais poser la question suivante, pour savoir, sans les ONG, est-ce que le gouvernement congolais, lui, n'est-il pas capable de violer les droits internationaux pour enfin créer le couloir humanitaire? Quelles sont les difficultés que le gouvernement a pour le moment? Voilà ma préoccupation.
Monsieur Patrick Lavandam, vous avez entendu la préoccupation d'un auditeur qui voudrait obtenir du gouvernement l'autorité nécessaire en vue de vous creuser, de vous ouvrir ce couloir humanitaire. Comment réagissez-vous à ce point de vue?
Ben, écoutez, effectivement, donc ça rejoint un petit peu ce que je disais. Il en est vraiment de la responsabilité des autorités politiques et des autorités militaires de pouvoir faciliter l'accès pour l'assistance humanitaire et de faciliter la sécurité des populations dans ces zones.
Mais aujourd'hui, Patrick Lavandome, par rapport aux événements qui se déroulent maintenant, donc il est 9h53, c'est 20 décembre, et quelle est la situation, la dernière que vous venez d'avoir sur la situation de terrain côté humanitaire?
Alors écoutez, côté humanitaire, bon, les populations ont commencé à se déplacer au tout début de la semaine passée, en tout cas pour ce qui est du nord de Kanyabayonga. Par contre, les populations de Kanyabayonga s'étaient déjà déplacées un petit peu précédemment. Il y a un fait qui est intéressant, c'est qu'il semble que samedi, il y avait une petite partie de population qui commençait à retourner sur Kaina et sur Kirumba. Et il semble qu'ils avaient très faim et donc ils auraient essayé de trouver des endroits où ils pouvaient accéder à de la nourriture.
Et voilà, et dans tout ça, c'est ce qu'on remarque, c'est le communiqué des Ocha qui a été rendu public, le titre est assez révélateur, le titre c'est RDC, arrêter la guerre contre les civils. Vous qui êtes de Ocha, bureau du Nord Kivu, qu'est-ce que ça signifie ce titre? Comment pouvez-vous nous interpréter le titre arrêter la guerre contre les civils?
Mais écoutez, je pense que le message est assez clair. C'est que l'ensemble des troupes FRDC et autres groupes militaires arrêtent leurs exactions sur les populations civiles et que s'il y a des discordances et des règlements de compte, je dirais, à résoudre, qu'ils s'en prennent entre eux, entre militaires, mais que selon les règles humanitaires internationales, laissent les civils en dehors des combats et des tracasseries.
Mmh. Donc si je reprends un extrait de ce communiqué des Ocha, des visages d'enfants, des femmes, des personnes âgées et d'hommes, des innocents pris en otage d'une guerre qui ne leur appartient pas. Et là, c'est là que je vais vous poser la question, M. Lavandome. Je cite, à leur côté, des humanitaires désireux d'alléger les souffrances des victimes les plus vulnérables subissent les conséquences des violations des principes élémentaires gouvernant leurs actions. Fin de citation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous demandez actuellement comme garantie pour que vous puissiez mener à bien les opérations humanitaires en faveur de ces populations?
Oui, absolument. Donc il y a d'abord au niveau des principes humanitaires, la facilité de déplacement dans toutes les conditions sécuritaires pour le personnel des ONG internationales et des agences des Nations Unies qui permettent d'atteindre les populations et de pouvoir évaluer les besoins. Le deuxième point qui est demandé, c'est de nouveau la mise en neutralité des populations civiles et peut-être pouvoir mettre en place des zones de sécurité où cette population civile pourrait être protégée.
Voilà, Monsieur Patrick Lavandome, je rappelle que vous êtes chef de bureau de Ocha pour le Nord Kivu. C'est vous qui coordonnez actuellement toutes les opérations humanitaires. Je vous remercie de nous avoir fourni ces informations. Bon courage et surtout faites très attention à vous.
Je vous remercie bien. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
Voilà, Maître Dominique, on va conclure avec vous. Vous nous avez accompagné pendant toute cette première heure. Vous venez d'entendre autant d'informations, autant d'efforts qui sont en train d'être fournis de la part des agences humanitaires au niveau local de notre droit congolais qui a ratifié d'ailleurs, par ailleurs, l'ensemble de toutes ces conventions qui sont violées aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme recommandation pressante au niveau niveau du gouvernement qui est garant de la sécurité, de la paix et de tous ceux qui vivent sur le territoire de la RDC.
Merci beaucoup, Walter. La recommandation principale est de demander au gouvernement de prendre des dispositions utiles sur la protection des populations civiles et particulièrement de pouvoir informer toutes les forces combattantes des principes élémentaires et des principes de base du droit international humanitaire, parce que généralement ce sont les personnes au front, les militaires, les combattants qui violent ces principes, parfois par méconnaissance et par ignorance. Donc il est utile de rappeler aux commandants des troupes, à ceux qui dirigent les forces sur terrain, de pouvoir veiller à ces dispositions et au respect de ces préceptes par les unités qui sont au front et de prendre des dispositions utiles, bien sûr, pour protéger, bien sûr, qu'il y a la guerre. Il y a un problème capital pour le pays. La protection du territoire national, c'est imminent et c'est très important. Mais qu'à côté de cela, on n'ignore pas, on n'oublie pas que les populations civiles doivent aussi être protégées et leurs droits et leur sécurité doivent être garantis.
Maître Dominique, merci beaucoup. On se retrouvera lundi prochain, ce sera déjà le 27 décembre. On aura dépassé le 25 et je profite de l'occasion pour vous souhaiter tous les vœux de Noël et de bonne année 2005.
Merci beaucoup, je vous le réitère aussi, ainsi qu'à toute l'équipe d'Okapi Action.
Merci beaucoup, Maître Dominique, à bientôt.
Okapi. Okapi à Kinshasa. Sur 103.5 FM.
Ok, Piaction, on va rejoindre un invité tout à l'heure pour cette question de démobilisation au niveau de la province du Maniema. Nous avons entendu tout à l'heure Madame Willy Kikungu, qui est coordinatrice de la Commission nationale des démobilisations et réinsertions. Elle nous parle d'au moins 12 000 ex-combattants concernés par ce programme qui devra avoir lieu d'ici 2 mois. Et au préalable, cela aurait été possible 1 mois avant, mais elle a dit 2 mois. Quelles sont les procédures pour pouvoir accéder à ce programme? On va essayer d'avoir des précisions dans quelques instants avec Monsieur Passoine Zambébébé, qui est élu gestionnaire du centre d'orientation Kinshasa, actuellement en mission à Kindu pour probablement partager son expérience par rapport à ce programme qui commence maintenant à Kindu. On essaie de le joindre, mais ce n'est pas encore possible. Juste le temps de vous rappeler que au niveau de Kindu, quelques anciens combattants ont déjà été démobilisés. Ils ont déjà des certificats de démobilisation. C'est avec ce certificat-là qu'ils devront se présenter au niveau du centre d'orientation. On me dit que c'est possible maintenant de parler avec M. Passoine Zambébébé. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes, vous avez géré un centre d'orientation à Kinshasa. Vous êtes actuellement en mission à Kindu. Pour quelle raison?
Oui, c'est raison de suivre sur place les travaux de réaménagement de site pour recevoir les démobilisés ici à Kindu.
Voilà, Madame Willy Kikungu, coordinatrice de la CONADER pour la province de Maniema, on l'a entendu tout à l'heure dire que ce projet pourra commencer, disons, les bénéficiaires pourront accéder à ces centres d'ici des mois. Est-ce que vous pensez que le rendez-vous sera respecté?
Je ne vais pas bien saisir. Il y a un peu trop de bruit au téléphone. Est-ce qu'il y a moyen de répéter?
Oui, je vais répéter pour vous, cher monsieur. Nous avons entendu Madame Willy Kikungu dire que d'ici 2 mois, les premiers groupes de démobilisés pourront être accueillis dans le centre dont vous êtes en train de suivre la construction. Pensez-vous que le rendez-vous de 2 mois sera respecté?
Oui, parce que le personnel qualifié est affecté à ces travaux et nous faisons beaucoup d'attention pour que les travaux finissent à temps et les intéressés viennent trouver les lieux accessibles.
On a appris que par semaine, ce centre pourra accueillir 1000 démobilisés. Est-ce que vous aurez les capacités d'accueil nécessaires?
Oui, le personnel et les gens choisis pour ce travail, et nous sommes sur place. Je crois que d'une semaine, on fait les travaux prévus pour ça chaque semaine et pour que le délai soit respecté.
Nous le savons, à Kindu, il y a eu déjà des personnes qui ont été démobilisées, qui ont déjà des brevets de démobilisation. Et quelles sont les procédures à suivre par les bénéficiaires qui sont concernés par ce projet?
Oui, il y a une équipe dans notre délégation. Il y a aussi le chargé de ces travaux qui... Peut-être mercredi, il va trouver les responsables pour pouvoir trouver l'issue de ces tâches-là.
Est-ce que ça veut dire que maintenant, vous ne savez pas quelle est la procédure que... Bon, prenons un cas simple. Supposons que moi, Walter, me l'ont dit. Si par impossible, j'étais concerné par ces programmes de démobilisation. Et qu'est-ce que je dois faire? Quelle procédure je dois suivre pour que d'ici des mois, je me retrouve dans ce centre-là?
Oui, oui, même avant 2 mois, vous pouvez toutefois, comme vous êtes dans la ville, vous pouvez toutefois passer voir l'état d'avancement des travaux et des renseignements sur place.
Je ne parle pas de l'état d'avancement des travaux. Je prends la situation des bénéficiaires du projet. Comment vont-ils être admis dans ce centre? Quels documents doivent-ils présenter? Et comment ça se passe? Quelles sont les conditions d'admission, si vous voulez, au centre qui est en train d'être construit maintenant?
Les conditions d'admission, tout ça regarde la maman coordinatrice qui a tous ses services à sa responsabilité. Comme ça, c'est elle qui connaît qui doivent entrer, quels sont les documents qu'ils doivent présenter, les conditions affectées à tout ça, c'est la coordinatrice de Conade sur place ici.
Ok, monsieur Passoa Zambé, je rappelle.
Passoa Zambé, bébé.
Oui, je rappelle que vous êtes en mission à Kindu, que vous êtes gestionnaire des centres d'orientation pour démobilisation et réinsertion au niveau de Kinshasa. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Ça nous permet de continuer ce magazine Okapi Action en parlant d'une question économique. Le paiement des taxes est un devoir civique, mais il est difficile pour un citoyen de s'acquitter de cette obligation lorsqu'il n'arrive pas à comprendre ou à maîtriser la destination de fonds pour lesquels il contribue. Aujourd'hui, on en parle. Dans les territoires de Loja, au Kassai Oriental, par exemple, un groupe d'opérateurs économiques de la cité se sont révoltés contre la perception d'une taxe. Ils l'estiment illégale. Notre consoeur Marie-Chantal Lumba était tout récemment à Loja et a suivi pour nous ce dossier. Marie-Chantal, bonjour.
Bonjour Walter.
Vous êtes déjà rentré à Kananga. Vous avez suivi pour nous ce dossier de problème de taxes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Loja à propos du paiement de cette taxe?
Il était question plus particulièrement de la taxe sur la consommation que les opérateurs économiques appellent taxe provinciale de recouvrement. Les opérateurs économiques avaient commencé par une grève il y a quelques jours pour montrer leur refus de payer cette taxe. Et ce jour-là, marché ni boutique n'avait ouvert. L'administrateur du territoire a essayé de les raisonner, mais rien à faire. 2 jours après, c'est l'organisation d'une marche au cours de laquelle il y avait eu des incidents. La police a tenté de réprimer la foule et la population a riposté avec des jets de pierre. Le bilan des blessés grièvement, des arrestations, des dégâts matériels importants. Il y a eu même un bureau de la police qui a été entièrement saccagé. Mais pour revenir à la taxe, les opérateurs économiques et marchands de Loja estiment cette taxe illégale. Des explications avec un opérateur économique de Loja.
La taxe a été suspendue. On est surpris qu'on veut reprendre la perception de cette taxe. Vous attendez que c'est une taxe provinciale qui a été instituée pendant la rébellion. Qui l'argent entrait dans les poches de l'individu. Je vous dis qu'ici, il n'y a aucune réalisation de la soit averti. Ils ne veulent pas payer. Le nouveau gouverneur a suspendu la taxe. Il nous a assuré que, bon, cette taxe est pareille à la douane. Comme les marchandises viennent de Kinshasa et de Goma, vous ne pouvez pas payer cette taxe parce que elle semble à la douane. Bon, nous étions contents. Mais peu après, lorsqu'il est reparti en Bujumaï, il a fait sortir un arrêté auquel il nous demande de payer encore cette taxe. Raison pour laquelle les gens se demandent pourquoi le gouverneur doit prendre cette décision pendant que lui-même a suspendu la taxe.
Voilà, on vient d'entendre un opérateur économique qui défend le camp des professionnels des affaires, mais que dit l'administration, parce que en attente de ces déclarations, la Corporation des entrepreneurs de l'Odja accuse le gouverneur du Kassa Oriental de ordonner la perception d'une taxe qu'il aurait lui-même préalablement déjà suspendue.
Nous avons pu rencontrer Dominique Kankou, le gouverneur du Kassai Oriental. Pour lui, il est question d'un malentendu, d'une mauvaise compréhension des opérateurs économiques de l'Odja. Il faut que le citoyen paye ses taxes. Dominique Kankou.
La taxe de recouvrement provincial, c'est tout simplement la taxe sur la consommation. Et c'est une taxe qui est en conformité avec le budget que nous avons défendu à Kinshasa le mois passé, si je ne me trompe pas, ou le mois avant. Donc ce n'est pas une taxe imaginaire ou bien arbitraire, non. Ce que j'avais évité, je voudrais que ça soit clair pour les populations de l'Odja, je n'ai pas voulu en juillet qu'elle soit soumise à la tracasserie. Parce que tout simplement, en ce moment, on était en mission de réunification de la province. Donc, on devait uniformiser d'abord la nomenclature et ensuite mettre à la disposition du percepteur des taxes du Sankuru les taux appliqués d'une manière uniforme avec le reste de la province. Pourquoi ? Parce que tout simplement, même les taxes perçues dans le temps n'allaient pas dans la caisse de la province. Et c'était des individus qui s'enrichissaient avec. Il faudrait que, à partir de dorénavant, la population de l'Odja sache que ce n'est pas l'argent du gouverneur, c'est leur argent qu'on va utiliser pour leur rendre des services au niveau public.
Monsieur le gouverneur du Kassai Oriental, Dominique Kankou. Marie Chantal, si on se résume, au regard de toutes ces déclarations, deux sons de cloche, on constate qu'il existe des problèmes à différents niveaux. Non seulement une partie des contribuables ne veut pas payer ses taxes parce qu'elle ne sait pas ou ne voit pas concrètement à quoi sert l'argent contribuer pour des raisons fiscales, mais aussi d'autre part, selon le gouverneur, il y a une désinformation, voire un manque d'information. On est d'accord, Marie-Chantal?
Effectivement, Walter, d'ailleurs, le gouverneur du Kassai Oriental, Dominique Kankou, s'était rendu à l'Odja pour essayer de calmer la situation. Il a essayé d'expliquer et de faire comprendre. Et aussi, le problème ne se pose pas seulement à l'Odja. Il existe dans d'autres territoires comme Alusambo où également la perception des taxes n'est pas la bienvenue. Et écoutons ce témoignage de Alusambo.
Les attaques c'est à recouvrement. Tant aux autres ne bougent pas, tous sont mal au cause à la tana capitale de 50 dollars. Tant aux autres comme moi, parce que maintenant bas aux télé mais là yo au foot à 10 000 francs, bah 15 000 ouana na bateau à dollars et ao. Bali a intérêt ni on se met au progrès ces athées. Ça n'a pas si mini vraiment, mais qu'au foot à la côte à ta moi primo ko et à moi nam, mais oh et à excès. Bah autant en a ah vraiment dans le samo bâton ni mot cassé. Tout ça car tous ceux ont la cima, tous ceux ont la cima progression ces athées. On a chico mon ou la bataille sur bas au foot, ça dit ces athées ni tout ligne en côté tout boy.
Mais quand même, vous dites que Essengeli mutuyo soft tax.
Bon, Essengeli là au foot à, mais ils à la moi diminué pour bas au foot à l'état.
Voilà, Marie-Chantal Lumba, on a l'impression qu'il y a un langage de sourds, tout le monde veut justifier ce qui est en train d'être fait. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui pourrait être fait, je veux dire, pour remédier à ce problème, déjà d'incompréhension, de mauvaise communication entre l'autorité provinciale et les contribuables, étant entendu que les recettes fiscales sont des ressources importantes et indispensables dans le fonctionnement d'un État?
Bon, il faudrait d'abord que l'État fasse un effort pour visualiser et de concrétiser les recettes des taxes, soit en réfectionnant un pont, une route ou en posant d'autres actes à caractère social, parce que vous vous imaginez que la population, une population comme celle de l'Odja ou bien de Lusambo, qui a passé plus de 5 ans à payer des taxes de tout genre et de ne rien voir en retour, vraiment c'est très compliqué de les forcer à pouvoir payer encore davantage quand ils ne voient pas le retour. Et puis aussi, il faut que la gestion soit transparente. Ils peuvent même utiliser le circuit bancaire qui est plus ou moins honnête. Et aussi, il faudrait vulgariser les taxes, informer la population pour qu'elle se retrouve, pour qu'elle puisse réavoir, on peut dire, cette culture fiscale.
Voilà, c'est une question qui intéresse tout le monde. Beaucoup d'auditeurs nous suivent à travers tout le territoire congolais, à travers le monde, sur Internet, en direct. Mais plus d'un Congolais qui nous suit se pose des questions du genre, qui doit payer l'impôt, qui doit payer la taxe, comment payer, quand et où doit-on payer, à quoi les recettes fiscales servent dans un état de droit. On va en discuter tout à l'heure avec nos invités et avec les auditeurs qu'ils souhaitent, parce qu'ils peuvent nous faire parvenir leurs questions en appelant au 081 890 68 90. On aura des invités du domaine, peut-être des précisions de votre part, Marie Chantal. Ça sera Paulin Otende ou Faustin Tshibaka?
Donc ce sera Paulin Otende, qui est conseiller économique du gouvernement de Kassai Oriental.
Voilà, une personne qui va répondre à toutes les questions par rapport à cette problématique de la taxe. Pour l'instant, Marie-Chantal Lumba, merci beaucoup en tout cas de nous avoir amené dans ce monde fiscal. Qu'est-ce que je peux vous dire?
Merci.
Qu'est-ce que vous souhaitez que je vous dise maintenant? Je vous dis bonne année Marie-Chantal, joyeux Noël.
Merci, pareillement.
Merci beaucoup et toutes les bonnes choses. À très bientôt.
Merci. Bye.
Au revoir.
Okapi. Okapi à Kinshasa sur 103.5 FM.
Okapi Action sur votre radio, votre magazine, à participer à cette émission en appelant au 081 890 68 90. Le dernier sujet, le dernier invité pour aujourd'hui, la situation humanitaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, principalement autour de la zone de Kanyabayonga. Dans cette zone, des visages d'enfants, des femmes, des personnes âgées et d'hommes, des innocents sont pris en otage d'une guerre qui ne leur appartient pas. À leur côté, des humanitaires désireux d'alléger les souffrances des victimes les plus vulnérables subissent les conséquences des violations des principes élémentaires gouvernant leur action. Pourtant, en vertu des textes internationaux de base en la matière et des principes relatifs à l'action humanitaire d'urgence en République démocratique du Congo récemment actualisés, les différentes parties s'engagent à garantir le libre accès aux bénéficiaires potentiels pour permettre aux organisations humanitaires d'évaluer les besoins, d'acheminer et de superviser l'aide humanitaire. D'autre part, les autorités en présence sont responsables de la sécurité et de la protection de la population civile dans les zones de conflit. Ces autorités ont le devoir de créer les conditions appropriées pour la mise en œuvre des programmes d'aide humanitaire. Pour l'heure, cependant, aucun de ces principes n'est respecté. C'est un extrait du communiqué du Bureau des coordinations des affaires humanitaires rendu public tout récemment. C'était le 16 décembre 2004, en rapport avec la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, principalement autour de Kanyabayonga. On va se retrouver dans quelques instants avec beaucoup plus de chance, cette fois-ci, de joindre notre invité.
Okapi. Okapi à Kinshasa sur 103.5 FM.
On a en ligne Monsieur Paulin Otende. Monsieur Paulin, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, je suis Walter Mulondi. Les présentations étant faites, nous savons chacun de nous à qui il parle. Monsieur Paulin Otende, vous êtes conseiller économique du gouverneur du Kassai Oriental. Nous parlons de cette situation qui fait une sorte de tension entre les contribuables et l'autorité, précisément au niveau de l'ODA. Il y a eu tout récemment des échauffourées, des marches qui ont été réprimées. Pourquoi, à votre avis, des réclamations liées aux taxes peuvent arriver à des marches qui sont réprimées avec force de cette façon-là?
Ok, merci. Bon, ce qu'on doit savoir, ce que l'opinion voudra d'abord savoir, c'est que la culture fiscale ne s'est pas encore installée dans cette partie de la République. D'une manière générale, en République démocratique du Congo, on peut dire qu'il n'y a pas encore la culture fiscale. Les contribuables ont toujours tendance à refuser de payer les taxes. Alors que les taxes, c'est une imposition. Ça relève de la puissance publique de l'État. Quand on décide de payer une taxe, il faut payer. Et lorsqu'on ne paye pas de taxes, on tombe sous le coup de l'incivisme. Et c'est ça qui arrive souvent. C'est une culture fiscale. C'est ce qui est d'abord à la base de ce qui s'est passé à Lodja. Et il faut ajouter à cela le manque d'information, le manque de clarification.
À quel sujet ?
Dire que on a réprimé violemment, je ne pense pas.
Il y a eu un poste de police qui a été saccagé.
Oui, c'est ce qui est malheureux d'ailleurs, parce que dans ce genre de manifestations, dans ce genre de situations, c'est devenu monnaie courante. Hein. Il y a toujours des mains cachées qui cherchent à politiser les choses qu'il ne faut pas politiser. Mmh. Et c'est ce qui est malheureux.
Monsieur le conseiller, revenons à la question profonde, la taxe. Mais selon certains opérateurs économiques, la taxe qui était réclamée par les agents y préposés avait été au préalable suspendue par le gouverneur et les opérateurs ne comprenaient pas comment cette taxe revenait.
Oui, mais vous dites bien suspendue. Il faut d'abord remonter pour savoir pourquoi cette taxe a été suspendue. Quand on dit suspendu, ce n'est pas dire à supprimer. C'est qu'on vous donne un moratoire, on prend un temps pour voir comment on peut réorganiser la taxe et au besoin revenir à la taxe. Ils disent bien que c'était suspendu, mais on n'a pas supprimé. Et pour votre petite histoire, je vous rappelle qu'au mois de juillet dernier, le gouverneur est descendu à Lodja dans le cadre de la réunification. C'est à cette occasion-là que le gouverneur, trouvant qu'il y avait déjà une anarchie dans la perception de cette taxe, et voulait mettre de l'ordre et surtout uniformiser la nomenclature au niveau de la province. C'est alors qu'il avait pris la décision de suspendre dans l'intérêt supérieur de cette même population, de ces mêmes opérateurs économiques. Lorsque le gouverneur a mis de l'ordre dans la boîte, il était tout à fait normal que la taxe reprenne parce qu'elle n'a jamais été suspendue. C'est une taxe qui existe parce que le gouverneur, qu'on le sache, ne peut pas supprimer une taxe.
Ok, mais Monsieur Paulin Otende, l'autre raison d'énervement de certains contribuables, c'est qu'ils ne voient pas sur le terrain peut-être des projets concrets que l'on présente, comme il a été réalisé grâce notamment aux contributions des personnes qui doivent payer les taxes.
Oui, bon, ça c'est ce qu'ils vous disent de loin, parce que le gouverneur venait d'inaugurer, son excellence, monsieur le gouverneur, venait d'inaugurer la réfection totale du pont Lokenyen. Le pont Lokenyen, c'est sur la nationale numéro 7. C'est une route nationale d'intérêt économique évident. Et ce pont a été inauguré avec l'argent que ces gens payaient. Comment ils peuvent dire qu'il n'y a pas de... C'est justement pour cela que les gouverneurs ont arrêté de payer, parce qu'en suspendant, les gouverneurs étaient d'avis avec eux, et c'était réel que cette taxe ne partait déjà dans les poches des individus. C'est alors qu'il a mis, il a stoppé pour mettre de l'ordre. Dès lors que l'ordre est revenu dans le pays, parce que les ponts lokenyens a été réceptionné avec l'argent des fiscs et l'argent des contribuables. Et ces ponts, pour votre information, il a coûté plus de 1,5 million de francs congolais. Et c'est vérifiable. Vous pouvez descendre sur le terrain, vous allez voir.
Mais Monsieur Paulin Otende, on a évoqué la question tout à l'heure, qu'il y a manque de formation. Est-ce que, parce que c'est vous le conseiller économique du gouverneur, est-ce que vous arrive de faire une campagne d'information par rapport à qui doit payer les taxes, quel type de taxes, auprès de qui doit-il payer, quels sont les documents, les preuves de paiement qu'il doit exiger pour qu'il y ait transparence dans cette opération de fiscalité?
Ok, écoutez, monsieur le journaliste, je reviens à ma dernière remarque. Quand je vous disais qu'il y a une espèce de manque de culture fiscale, et toute cette campagne de sensibilisation existe, et chacun sait ce qu'il doit payer. tout ce qu'il y avait là-bas, c'est de la mauvaise volonté tout simplement. Et l'intention manifeste de d'éluder les taxes, c'est ça, c'est tout simplement ça qui était là. L'information était là, la sensibilisation était là, parce que avant de reprendre la taxe, le paiement de la taxe, nos services sur place ont eu des séances de travail avec la FEC, ce qui représente la FEC là-bas, et les opérateurs, les différents partenaires dans ce domaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de formation ou de sensibilisation.
Vous avez parlé d'un pont qui a été réhabilité totalement par l'argent du fisc et des contribuables. C'est une infrastructure visible, mais est-ce que vous pensez pouvoir faire d'autres projets pour rendre plus visibles les recettes fiscales, parce qu'ils ont beaucoup plus besoin de davantage de visibilité, comme ça peut les encourager à toujours mieux contribuer lorsqu'ils voient à quoi est destiné l'argent qu'ils payent.
Oui, monsieur le journaliste, je vous dis que j'ai énuméré, entre autres, le pont Lokenyé. Il n'y a pas que le pont Lokenyé. Il y a l'hôpital général de référence qui a été rapin à l'intérieur, avec les mêmes fonds. Et dans l'agenda de l'exécutif provincial, il y a des activités qui devront être entreprises de l'autre côté là-bas. Notamment, il y a une école qui devra être réamée et réhabilitée entièrement, l'Institut de l'Odja. Il y a la campagne ou les démarches qui sont en train d'être entreprises pour électrifier la cité de l'Odja. Et tout ça, l'argent, c'est cet argent-là qu'ils vont payer, qui va servir à tous ces travaux-là.
Comment pensez-vous pouvoir ramener la confiance entre les contribuables et l'État qui perçoit les taxes?
Comment ramener la confiance entre le contribuable et celui qui perçoit la taxe? Et là, franchement, je vous dis qu'il y a aussi un petit problème, vous savez. Les agents commis à la perception de taxes ne sont pas toujours sains. Et des fois, ils s'y prennent avec beaucoup de maladresse. Et c'est dans ce sens-là que l'autorité provinciale a sévi, j'imagine, en réalité, tous ces agents-là commis à la perception qui tracassaient la population. Je crois que l'autorité a pris des mesures là dans le sens d'amélioration de conditions, des rapports entre les contribuables et les percepteurs.
Est-ce que ce sera amplement suffisant? Parce que si vous-même, vous reconnaissez que tous les percepteurs ne sont pas des personnes saintes, n'ont pas des mains saintes, alors là, il y a lieu que certains contribuables puissent craindre que l'argent qu'ils payent pour renflouer les caisses publiques rentre plutôt dans des poches des individus.
Oui, je vous dis que c'est dans ce cadre-là qu'il y a un assainissement. Je vous dis que dans la délégation du gouverneur qui est descendue sur le Sankourou, il y avait l'auditeur provincial. Je pense que c'était ça, son rôle. Je crois que j'ai dit qu'il y a des mesures qui vont tomber. Si on a trouvé qu'il y a des taxateurs heureux, on va les remplacer. Et ce qu'il faut savoir, que ça doit être une préoccupation, et c'est toujours été une préoccupation permanente de l'autorité provinciale, de veiller à l'assainissement de finances de la province.
Est-ce qu'on peut espérer que dans les semaines qui suivent, le secteur fiscal au niveau du Kasaï oriental sera assaini de telle sorte que les recettes tombent réellement dans les caisses de l'État et que l'État en retour puisse améliorer les conditions des villes, les conditions des infrastructures à l'intérieur de la province?
Et je peux vous répondre par l'affirmative, je suis optimiste. Parce que je crois que même les soukis même de perception, ce ne sont plus les taxes d'affaires qui touchent l'argent, ils ne les verront pas parce que l'argent est versé directement, logé directement en banque. Et je crois que dans les jours à venir, je reste optimiste, les finances seront assainies de ce côté-là.
On se donne rendez-vous pour combien de mois pour venir vérifier si votre optimisme n'est pas seulement une déclaration de bonne foi?
Non, je pense qu'il y a là, c'est pas la bonne foi, il y a là ce qu'on appelle la détermination. Il y a la volonté. Dès lors que ces deux éléments-là sont réunis, ils sont dérogés dans le chef de l'exécutif provincial. Je pense que ça ira, mon optimisme se vérifiera.
Dans combien de mois?
Dans combien de temps? C'est difficile de vous dire parce que c'est une entreprise dans laquelle il y a deux hommes. Il y a toujours des dérapages qu'on tente à tout moment. Lorsqu'on avance, on règle. Mais je vous dis que dans un bref délai, je pense que ça sera chose faite, vérifiable.
Nous serons au rendez-vous. Monsieur Paulin Otende, je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes le conseiller économique du gouverneur du Kessai Oriental. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et rendez-vous, je vous cite, dans un bref délai pour venir constater si le fisc au Kessai Oriental aura été assaini et surtout s'il y aura eu beaucoup de projets réalisés, financés par les recettes fiscales.
Je vous remercie.
Merci beaucoup. Ok, Action, nous allons nous quitter dans quelques instants avec cette dernière réaction de Monsieur Mbuyamba Théodore qui vient de nous appeler de Mbujimaï. Sa réaction est la suivante, je cite, « Tous les commerçants sont obligés de payer leurs taxes et puisque nous sommes, nous, ça veut dire les commerçants, sont en règle avec l'État. Celui-ci, donc l'État, doit faire son travail en commençant par mettre la propriété au marché des Chindimbi. » Fin de citation. C'était Théodore Mbuyamba. Et c'est avec ça que Okapi Action s'achève aujourd'hui. Toute l'équipe des productions vous remercie de votre sympathique et aimable attention. Et c'est réjoui de vous retrouver demain, 9h02, heure de Kinshasa. Alain Goy était à la mise en onde. Au micro, il y avait Walter Mulondi. Nathalie Moutebondandou était à la régie.
Okapi. Okapi à Kinshasa sur 103.5 FM.